Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Micro Rebelle Hebdo de ce 22 octobre 2021, il est 18h. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine des luttes sociales, dans le bassin minier surtout et au-delà, diffusé tous les vendredis de 18h à 19h sur notre site www.micro-rebelle.fr et rediffusé sur Radio PFM 99.9 à Arras. Micro Rebelle Hebdo propose chaque semaine un agenda social et culturel, une revue d'actualité et de presse, des infos locales sur les luttes, les événements et les mobilisations, à travers des interviews, des chroniques et de la musique libre. Aujourd'hui, nous aborderons la question de l'énergie, avec une interview réalisée par Luc. Et dans un premier temps, je vous propose d'écouter une revue de presse. Alors cette semaine, la revue de presse va concerner un sujet un petit peu délicat, car à partir d'un article de Rachel Knobel dans le journal Basta, qui est un journal en ligne, un web journal, pour lutter contre la drogue, une nouvelle stratégie du ministère de l'Intérieur se prépare. La répression des associations de prévention contre les drogues. Deux associations qui informent sur les risques liés aux drogues dans les événements festifs ont reçu des procès-verbaux leur demandant d'en dénoncer les organisateurs et organisatrices. Elles déplorent une répression qui met à mal la santé publique. Question. Dans quel cadre la délation est-elle plus constructive que la prévention ? C'est une mauvaise surprise qui est arrivée début août, en plein cœur de l'été, dans la boîte mail de l'association lyonnaise Keep Smiling. Un procès-verbal de réquisition de la part de la Gendarmerie nationale de Saint-Marcellin, en Isère. Keep Smiling, l'association en question, travaille sur ce que l'on appelle la réduction des risques dans les événements festifs, comme les free parties, les soirées techno, électro et les festivals, en particulier dans la région Rhône-Alpes. Ses animateurs et bénévoles y informent les fêtards et les fêtardes sur les risques liés à la consommation de drogue, mais aussi sur la sexualité ou les risques auditifs. Qu'en est-il exactement ? Quels sont les torts reprochés à Keep Smiling ? Le procès verbal du 4 août demande à la présidente de l'association de bien vouloir fournir toutes les informations en sa possession concernant l'organisation récente d'une free party, c'est-à-dire les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, coordonnées téléphoniques et adresses des organisateurs, ayant sollicité l'intervention de votre association sur l'événement, je cite. Dit autrement, la gendarmerie demande à Keep Smiling de dénoncer les organisateurs de l'événement. Si elle ne s'exécute pas, l'association risque 3 750 euros d'amende. D'autres poursuites ne sont pas exclues, nous précise une salariée de Keep Smiling. Est-ce avec ce type de menace que l'on peut travailler ? Les relations entre les associations et les autorités publiques sont rendues de plus en plus difficiles, non seulement par le conditionnement des aides aux associations, qui assurent pourtant des missions d'intérêt général et social pour pallier à des lacunes, d'une gestion par l'État de certains problèmes, mais également par des pressions diverses opérées sur elles par le biais de la loi. Dans le cas présent, dans le cas de la prévention contre les drogues, le lien de confiance entre les associations et les usagers est essentiel. Or, ce type de démarche policière met à mal l'action de prévention de l'association en lui demandant de collaborer à la traque des organisateurs et organisatrices de soirées. À ceci, s'est ajouté un autre événement du même acabit, le 9 septembre. C'est au tour d'une autre association qui fait de la prévention des risques en événements festifs, Techno Plus, de recevoir un procès verbal, similaire, pour les mêmes raisons. Il émane cette fois du procureur de Nantes, demandant de donner les coordonnées des organisateurs d'une free party qui aura lieu du 14 au 15 août, indique Techno Plus par mail. L'association nie avoir été présente lors de l'événement. Je cite. Notre association n'était pas présente à cette soirée, alors que le procès-verbal de réquisition affirme qu'un stand de Technoplus a été vu sur place. Les flyers de Technoplus sont mis à disposition de tous et toutes via notre site internet ou dans nos locaux à Paris, Nantes et Bordeaux. Et ce sont les plus utilisés en free party pour délivrer des informations sanitaires. Nous supposons que ce stand est l'initiative d'une ou plusieurs teufeuses, teufeurs, et nous saluons, encourageons et accompagnerons d'ailleurs toutes les personnes qui s'engagent dans ce genre de démarche. Nous sommes même financés par le Fonds de lutte contre les addictions pour favoriser ce genre de stand en free party, ajoute-t-elle. La réduction des risques aux consommations de drogue est reconnue comme un outil important de santé par les pouvoirs publics depuis les années 1990. Elle est aujourd'hui encadrée par la loi de santé de 2016. Mais depuis le début de la pandémie, la répression des free parties sont l'objet d'un zèle de plus en plus marqué. Dans un courrier adressé fin août à la Direction générale de la Santé, à la déléguée interministérielle à la jeunesse et à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Mildeka, Keep Smiling lance un cri d'alerte. Avec ce procès-verbal de réquisition, la police et la justice tentent de se servir du lien de confiance nécessaire entre les organisateurs-organisatrices et les acteurs-actrices de la réduction des risques pour réprimer les free parties. Mais cette action n'entraînera ni l'arrêt, ni la diminution du nombre de fêtes. Le courrier était signé par une douzaine d'associations, dont Médecins du Monde. Des années de travail balayées. En tentant de criminaliser une fois de plus les acteurs et actrices de réduction des risques, la seule conséquence sera d'empêcher l'accès des publics concernés aux actions de réduction des risques et de discréditer une fois de plus cette politique de santé publique. Aujourd'hui, Technoplus et Keep Smiling ont décidé de communiquer au grand jour sur ces difficultés. Nos deux associations, historiquement liées à la fête libre, sont subventionnées pour intervenir depuis 25 ans dans les fêtes techno-alternatives, que l'événement soit légal ou illégal. Nous permettons un accès à la santé et à l'information sur les risques liés aux pratiques festives. Nous prenons en charge, si besoin, les personnes en difficulté. En nous demandant de briser cette confiance mutuelle, la justice balaye des années de travail et se met entre nous, associations de santé, et notre public. Ces pressions de la part des forces de l'ordre interviennent alors même qu'en juillet, la délégation interministérielle à la jeunesse rappelait noir sur blanc, dans une instruction au préfet et au recteur d'académie, relative aux rassemblements festifs à caractère musical, que la réduction des risques et des dommages sanitaires, psychologiques et sociaux associés et encadrés par la loi et permet en milieu festif d'intervenir sur les lieux de l'événement pour informer, prévenir, repérer et prendre en charge les usagers. La réduction des risques sur les lieux des fêtes est bel et bien utile, selon le ministère de la Jeunesse. En plus, précise bien l'instruction, les acteurs intervenant au titre de la mission de réduction des risques bénéficient d'une immunité pénale dans le cadre de ces actions. Il se pourrait bien que sur le sujet, les positions divergent entre les ministères de la Justice et de la Santé d'un côté et le ministère de l'Intérieur de l'autre. Ceci dit, en définitive, c'est avant tout la santé publique qui risque d'en pâtir. Je vous propose désormais d'écouter un morceau de musique qui a été issu de l'album I Became Birds, et je vous propose d'écouter The Scientific Classification of Stingrays.
Donc nous sommes maintenant avec Romain Fronec de la CGT Fédération Nationale Mines et Énergie. Je vais d'abord te laisser te présenter.
Bonjour. Donc moi je suis Romain Fronec, représentant syndical et dirigeant fédéral de la CGT pour la Fédération Mines et Énergie.
Alors aujourd'hui, on va parler dans un contexte d'actualité lié à la hausse globale des factures d'énergie, d'augmentation des prix des ressources énergétiques. La réponse gouvernementale actuelle, elle est plutôt en matière de pouvoir d'achat, faire un petit cadeau. Jean Castex a promis 100 euros. Dans un contexte plus large, la question de la consommation d'énergie, elle est liée aussi au réchauffement climatique. Ce qui nous a intéressé en t'invitant, Romain, c'est de pouvoir parler du programme progressiste de l'énergie que propose la CGT, voilà, qui permet de proposer une alternative et de sortir un peu de l'agenda, de l'actualité gouvernementale. D'abord, première question, c'est aujourd'hui, cette question de l'énergie, elle semble avoir des causes extérieures. Des causes qu'on pourrait dire géopolitiques, l'approvisionnement en gaz, le marché de l'électricité. Est-ce qu'on peut avancer une autre lecture, plutôt liée en fait à l'organisation de la production et distribution d'énergie ?
Tout à fait. Déjà, on va resituer un petit peu le contexte. Depuis 2006, c'est l'année de l'ouverture au marché et de la privatisation des anciennes entreprises historiques EDF et GDF. Donc à ce moment-là, il y a eu la séparation des entreprises. Depuis cette date-là, on a eu une augmentation continue du prix de l'électricité et du gaz. Juste à titre comparatif, c'est 35% d'électricité pour les factures, c'est plus 35%. Et pour le gaz, c'est plus 85%. Alors ça, ce sont des chiffres qui sont notés dans notre programme progressiste de l'énergie, qui datent d'il y a 2 ans. Avec les dernières augmentations, c'est encore plus conséquent. Aujourd'hui, on a 25% de l'électricité produite par EDF, qui est aujourd'hui approximativement le seul producteur en France, qui sont obligatoirement revendus à des fournisseurs privés, type Total Energy, Leclerc, Cdiscount. Et eux, en fait, ils revendent l'électricité à des particuliers, à des usagers, avec des contrats particuliers, en fait. Donc, comme je disais, il y a 25% de cette production qui est obligatoirement revendue à ces fournisseurs-là, avec un prix du marché qui fluctue et des minimums obligatoires. Par moment, EDF est obligé de vendre à perte. C'est-à-dire que le prix du marché est tellement bas que les coûts de production de l'électricité sont au-dessus du prix de revente de l'électricité d'EDF à ces fournisseurs-là. Ensuite, on a, pour le gaz, une production qui n'est plus suffisante en France, donc on est obligé de s'alimenter par l'étranger. Notamment par la Russie, avec les gazoducs qui arrivent directement de Russie. Et il y a encore peu de temps, on avait des sites de stockage en France qui permettaient de stocker en grande capacité du gaz et permettre à la France, quand il y avait une augmentation du prix du gaz, de mettre à disposition ce gaz qui était stocké en France, sur le réseau français, à un prix régulé, on va dire. Ce qui permettait d'absorber les hausses de tarifs. Dernier point qui pourrait expliquer, c'est depuis la privatisation, on sait que privatisation veut dire actionnaire, ça fait quelques années que les entreprises de l'énergie remontent énormément d'argent aux actionnaires. De l'argent public, puisque c'est financé au travers des factures, de l'argent public qui est à destination des actionnaires. À titre d'information, comme ça, l'année dernière, c'était 600 millions d'euros qui ont été remontés pour EDF. D'ici 3 ans, c'est 1,3 milliard. Ça peut paraître énorme comme ça, mais effectivement, ça l'est, quoi. C'est 1,3 milliard qui pourrait être réinvesti sur de l'investissement en recherche et développement, qui permettrait de répondre à la question de l'enjeu climatique. Ça peut être aussi sur l'entretien du réseau. On voit qu'on a eu la tempête ces derniers jours, la nuit dernière, enfin avant-hier, la tempête Adèle. Il y a eu 25 000 clients dans le noir à cause de ça. L'entretien du réseau est un peu délaissé ces dernières années par Enedis. Donc on a tout un tas de choses qui pourraient être faites avec cet argent et qui aujourd'hui remontent dans les poches des actionnaires.
Oui, parce qu'on l'argument habituel, c'est de dire que la mise en concurrence va faire baisser les prix du marché. Globalement, ce n'est pas ça qui se passe et c'est un cas qu'on peut voir vu qu'on a quand même 15 ans de recul.
C'est ça, c'est ça. On a eu l'exemple quand ils ont mis à la concurrence, on s'est dit dans la téléphonie, ça a fonctionné avec Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free maintenant. Ça va marcher dans le secteur de l'énergie. Sauf que le secteur de l'énergie est très particulier. C'est de la production, c'est de l'acheminement, c'est de l'entretien, c'est beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, ça a fait effet inverse, c'est-à-dire que tout le monde veut récupérer sa part du gâteau et ça n'a pas fait baisser du tout les tarifs. Il faut savoir qu'à l'époque, EDF était, enfin la France, avait le secteur de l'énergie le moins coûteux d'Europe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Puisque, avec les hausses de tarifs successives, on rentre progressivement dans la moyenne européenne au niveau des tarifs de l'énergie.
Et alors, tu as dit que l'objectif était de passer de 600 millions de dividendes à 1,3 milliard. Comment générer ces profits ?
Alors, les profits sont générés par les augmentations de factures, par aussi toutes les économies que font les employeurs au sein des entreprises, c'est-à-dire réduction d'effectifs, c'est-à-dire départ en retraite non remplacé, entretien non réalisé ou très peu réalisé. Voilà, en gros, c'est ce qui représente les plus gros secteurs d'économie. Il y a aussi l'immobilier, là, ils sont en train de travailler sur l'immobilier en ce moment, donc réduction de l'immobilier, vu qu'il y a des réductions d'effectifs.
Et alors, est-ce que la piste ou la question de la conjoncture actuelle, parce qu'effectivement, on peut supposer qu'il y ait des augmentations de prix du gaz liés à des facteurs extérieurs, étrangers. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait dire que, oui, il y a cette conjoncture-là, il peut y avoir des pics, mais en fait, ils pourraient être très largement anticipés, et c'est-à-dire que ça ne se répercuterait pas comme ça d'un coup sur le pouvoir d'achat des ménages, parce que là, c'est ça aussi le cœur du problème tel qu'il est médiatisé.
Alors, il y a plusieurs solutions. Déjà, la première, c'est redevenir autonome énergétique en France. Sortir de la concurrence, pour dire qu'on retrouve, comme à l'époque, des ex-entreprises EDF-GDF, totalement autonomes dans la production, dans l'acheminement et dans la vente, ne plus dépendre de pays étrangers. Donc, devenir autonome, ça voudrait dire que côté ELEC, on y est, mais côté gaz, il faut redevenir autonome. On a plusieurs solutions pour redevenir autonome côté gaz, avec la production de gaz vert, avec du stockage, avec tout un tas de choses qui pourraient être mises en place, mais qui aujourd'hui ne sont pas la priorité du gouvernement.
Ce gouvernement a proposé le projet Hercule. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été facile de comprendre exactement de quoi il retournait. Donc déjà, est-ce qu'on peut essayer de donner les grandes lignes de ce projet ? Et est-ce que c'est représentatif de l'évolution de l'organisation économique du marché de l'énergie en France ?
Alors, le projet Hercule, pour resituer, en fait, c'est simplement séparer le groupe EDF tel qu'il est aujourd'hui en plusieurs entreprises, c'est-à-dire en deux entreprises, voire trois dans le dernier projet que le gouvernement avait imaginé. D'un côté, on aurait tout ce qui coûte de l'argent, c'est-à-dire en entretien, les centrales nucléaires, aussi avec le danger nucléaire, tout ça appartiendrait à l'État. Étant donné que ça coûte de l'argent, c'est l'État qui financerait. Et d'un autre côté, on aurait toutes les entreprises qui sont rentables, comme Enedis, qui seraient privatisées et qui seraient aux mains de fonds privés, et tout ça pour engranger un maximum de bénéfices. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est entretien des réseaux et tout ça. Il y a des concessions qui sont signées avec les pouvoirs publics et qui engagent les pouvoirs publics pendant 20 ans à laisser Enedis piloter le réseau. C'est 20 ans assurés de récupérer de l'argent. Voilà. En fait, ce projet Hercule ne répond en rien aux difficultés du contexte énergétique du moment. Ça n'y répond strictement rien. C'est juste remplir les poches de ceux qui ont déjà les poches pleines, en fait.
C'est un projet dicté, on pourrait dire, par l'Union européenne, l'ouverture à la concurrence, la libéralisation. Ça rentre dans ce cadre-là ?
Alors, l'Europe demande à ce qu'il n'y ait plus de monopole aujourd'hui. Plus de monopole sur le transport, plus de monopole sur l'eau, plus de monopole sur l'électricité, sur le gaz. Donc en fait, ils veulent de la concurrence à tout va. Sauf que l'État a tout à fait le droit aujourd'hui d'imposer un monopole quand ça devient un bien de première nécessité. Or, si on fait passer l'énergie dans un bien de première nécessité, l'État aura tous les droits. Ce n'est pas la volonté de l'État, puisque les grands copains de notre président Macron sont tous riches et souhaitent tous investir dans une nouvelle entreprise qui pourrait leur apporter encore plus. Donc la solution, elle est là. C'est faire passer en bien de première nécessité l'énergie, de manière à ce qu'on puisse redevenir un monopole et fermer cette libéralisation de l'énergie, quoi.
Et alors comment on pourrait faire acter que l'énergie est un bien de première nécessité ? Ce serait une loi ? Comment ça se passerait ?
Tout à fait. En fait, c'est une promulgation de loi. Et puis, il faudrait recréer à ce moment-là des entreprises publiques de l'énergie, avec d'un côté, pourquoi pas, le secteur gaz, d'un autre côté, le secteur élec. Et tout ça serait régi par les lois. Et en gros, ce serait des EPIC.
D'un point de vue peut-être plus intérieur, c'est-à-dire celui des travailleuses et travailleurs, qu'est-ce que ça dessine comme avenir ce projet Hercule au sein d'EDF et de Engie ?
Alors, Hercule, c'est purement EDF. Il y a eu, côté Engie, le plan Clamadieu qui est passé et malheureusement, la réaction a été pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Et le projet est passé. Hercule, pendant l'été, on a su faire reculer le gouvernement sur le projet Hercule. Avec un gros travail de la CGT, notamment envers les politiciens, qui se sont mobilisés derrière la CGT, une partie des politiciens, bien entendu, hein, qui se sont mobilisés derrière la CGT pour empêcher ce projet de passer. Quel avenir, on va dire, pour les agents d'EDF ou d'Enedis, en fait, c'est une séparation des entreprises et une perte du statut aujourd'hui, et surtout une libéralisation encore plus importante du secteur de l'énergie et une augmentation des tarifs et de la qualité derrière qu'il y a aussi en termes de dépannage. On imagine une agglomération qui récupère la gestion du réseau. Plus on s'éloigne du point de production, plus le coût d'acheminement est cher et plus ce serait cher pour la facture. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec la péréquation tarifaire. Aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on se trouve en France, quelle que soit la distance qu'on a par rapport au point de production, le prix du kilowatt est identique.
Oui, ça veut dire que multiplier les entités, ça les rendrait dépendant du territoire et ça créerait des inégalités territoriales de distribution et donc de facturation.
C'est ça. Et notamment sur le dépannage, j'ai un peu amorcé le truc, mais je l'ai pas complété. Sur le dépannage, on imagine que demain, Enedis soit privatisé, donc aux mains de fonds privés, de grands monsieur bien riches. Ils décident que le dépannage, qui est aujourd'hui 24/24 gratuit, demain soit payant, soit par un forfait dans le contrat qui signerait que la personne signerait dans son contrat ELEC, c'est-à-dire je vais dire une connerie, mais pour 30 euros de plus sur votre facture, vous aurez un dépannage 24 heures sur 24. Si vous signez pas pour ces 30 euros de plus, eh ben quand vous nous appelez en pleine nuit, aujourd'hui vous avez un agent qui vient, qui se déplace à n'importe quelle heure, demain vous attendrez 7 heures du mat ou 8 heures du mat le lendemain pour récupérer votre électricité si tout va bien.
Donc il y a un double jeu du gouvernement qui actuellement semble se soucier des ménages en leur offrant 100 euros, hein, ce qui à l'échelle de millions de personnes est un gros budget, mais qui en fait propose un projet qui fera globalement augmenter les factures. Quoi.
On est en période électorale. Le projet Hercule, c'était il y a 6 mois. Là, on rentre dans la période électorale avec les présidentielles qui arrivent. chaque candidat va essayer de tirer son épingle du jeu sur le secteur énergétique. Maintenant, ceux qui auront vraiment la réelle volonté de faire du secteur énergétique un service public de l'énergie, pour moi, sortiront grands gagnants.
Alors, les réponses à la situation actuelle, elles sont d'un côté, on l'a dit, des chèques énergie. De l'autre côté, la CGT, vous proposez une baisse de la TVA, ce qui permettrait de faire baisser très rapidement également les factures, donc la baisser à 5,5 plutôt qu'à 20%. Est-ce que malgré tout, ça risque pas de créer un trou en fait dans le budget de l'État et un manque à gagner qui permettrait pas justement d'investir dans les infrastructures et dans l'avenir énergétique?
Alors effectivement, le chèque énergie n'est absolument pas la bonne réponse. L'État prend pas ses responsabilités et fait fausse route là-dessus, clairement. Il y a deux possibilités, voire les deux peuvent se cumuler. La première, c'est la baisse de la TVA dans un premier temps, à 5,5, puis une suppression de la TVA sur l'énergie. Si c'est un bien de première nécessité, il n'y a pas lieu d'avoir une TVA sur l'énergie. Et la deuxième chose, c'est le tarif, enfin la taxe d'acheminement. C'est-à-dire que dans la facture d'énergie, on fait payer une taxe pour acheminer l'électricité de la production jusqu'au logement des usagers. Cette taxe-là pourrait être tout de suite supprimée aussi. Alors, faire un trou dans le budget par rapport à la TVA, non, il y a d'autres solutions. La première, c'est augmenter la fiscalité des dernières tranches, de ceux qui gagnent beaucoup. On pourrait augmenter cette fiscalité. Supprimer le CICE.
Ça, c'est globalement. C'est en dehors de l'énergie.
C'est en dehors de l'énergie.
Impôts, on parle des impôts sur le revenu.
On parle de tout, là. On parle de tout, voilà, c'est ça. Okay. Ensuite, supprimer le CICE. Ce sont des millions d'euros aujourd'hui qui sont donnés aux grandes entreprises qui avaient pour but de faire embaucher, de relancer l'économie. Aujourd'hui, ça finit dans les poches des actionnaires. Supprimer les exonérations fiscales des entreprises. Certaines entreprises aujourd'hui ont gracieusement des exonérations fiscales. On ne voit pas pourquoi. Ensuite, on pourrait imposer sur le patrimoine et le capital. Ça a été longuement débattu ces dernières années. Le gouvernement ne veut absolument pas le faire. Ça pourrait être fait. Et enfin, on peut aussi combattre l'évasion fiscale. On est en plein dans l'actualité avec les Pandora Papers. Cette évasion fiscale, quand on voit qu'il y a 11 milliards de côté, on pourrait très bien les récupérer. Ce ne serait pas perdu pour tout le monde.
D'accord. Et alors, plus globalement, hein, la réponse à plus long terme, et qui est proposé par la CGT, c'est un service public de l'énergie. On l'a un peu dit, avec la considération de l'énergie comme bien de première nécessité, comme bien commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça impliquerait, ça?
Alors, le service public de l'énergie, en fait, c'est simplement répondre aux besoins énergétiques et lutter contre le réchauffement climatique. Il y a une nécessité aujourd'hui d'avoir une transition énergétique pour traiter de toutes les inégalités. Il faut absolument qu'on contre les politiques néolibérales du moment. Comment dire ? Il faut que ce soit dans l'intérêt de tous, des citoyens, de l'enjeu climatique. On dit souvent que la CGT, elle est contestataire, qu'elle propose rien. Or, c'est faux, puisque ça fait maintenant un an qu'on a commencé à travailler sur ce programme progressiste de l'énergie. Et aujourd'hui, on a une vraie proposition qui peut être portée par les politiques. Surtout que ce programme progressiste de l'énergie, il serait à la fois géré par les entreprises, par l'État, mais aussi par les citoyens. Tout le monde rentrerait dans cette considération et aurait son mot à dire.
Donc ce serait un peu sortir de l'énergie comme de la consommation d'énergie comme un service quelconque, quoi. Et de dire que c'est une nécessité, ça veut dire que c'est vital pour tout à chacun, hein, de se chauffer.
Mais aujourd'hui, ça l'est, c'est clair. On voit le gaz, aujourd'hui, on arrive encore à trouver quelques parades. On n'est plus obligé de se chauffer au gaz, plus obligé de cuisiner au gaz. On a des parades. Par contre, pour l'électricité, aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. On n'a pas encore trouvé une solution annexe à l'ELAC. Donc, il faut que ça devienne un bien de première nécessité et que ce soit un bien commun pour tous et accessible à tous.
Et alors, tout de suite aussi, un élément qui est important à rappeler, que j'ai pu lire dans le petit journal que produit la CGT, Fédération Nationale Mines et Énergie, petit journal qui s'appelle 100% Public, 13 millions de personnes sont dans une situation de précarité énergétique. On est dans une situation de crise économique, liée à la crise sanitaire, certes, mais avec un accroissement des inégalités. Et puis, de toute façon, plus globalement, les inégalités de richesse s'accentuent. Voilà, comment ça peut s'articuler, en fait, un service public de l'énergie pour répondre à cet enjeu de solidarité?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est plus de coupures. Plus de coupures pour impayés, pour voilà, il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'électricité, au gaz, tout le temps. Ensuite, il faut un maintien du tarif régulé, c'est-à-dire un tarif qui est cadré et qui ne s'envole pas en fonction des prix du marché, comme aujourd'hui il existe encore en ELEC, mais qui n'existe plus en gaz. Ensuite, maintien de la péréquation tarifaire, comme j'expliquais tout à l'heure. Peu importe où on se trouve en France, il faut que le tarif d'acheminement soit le même pour tout le monde. Ensuite, il faudrait une tarification sociale ou une gratuité des premiers kilowatts consommés. Voilà, tout à l'heure, la question a été posée. Pour répondre aux plus précaires, si les premiers kilowatts consommés étaient gratuits, ça leur donnerait déjà un premier accès à l'électricité gratuit. Ensuite, la fin de la fameuse taxe d'acheminement, qui ne sert strictement à rien, hormis remplir les poches des plus riches. Et ensuite, suppression de la TVA, qui permettrait de diminuer la facture. Là, juste à titre comme ça, informatif, si on enlève la taxe d'acheminement plus la TVA, c'est 126 euros par an économisés tout de suite. C'est pas anodin quand même.
Ça dépend quand même du montant de la facture. C'est par rapport à la facture moyenne
Non, comme ce sont des taxes, si on les enlève, c'est en moyenne 126 euros.
En moyenne, voilà. D'accord. Ouais, ouais. Et donc, le programme progressiste de l'énergie, quelles en sont les grandes lignes? Qu'est-ce que c'est?
Alors, ce programme progressiste de l'énergie, il s'articule autour de quatre axes. Le premier, c'est une sortie du marché de la concurrence pour revenir sur un marché public français. Vraiment... production, transport, exploitation, acheminement et commercialisation, tout en français. Ensuite, c'est un tarif unique basé sur les besoins. C'est-à-dire un tarif qui est régulé selon les besoins de la personne. Ensuite, une fiscalité de l'énergie plus juste, comme je l'expliquais, avec la baisse de la TVA ou la suppression de la TVA. Et une solidarité renforcée et un droit fondamental d'accès à l'énergie. C'est-à-dire que toutes et tous, on doit avoir accès à l'énergie et personne ne doit être coupé de cette énergie.
Et en termes de production de l'énergie, est-ce que là aussi, il y a des propositions pour s'adapter aux questions, aux questions climatiques, aux enjeux écologiques?
Tout à fait. Il faut savoir que la sauvegarde du climat est un enjeu de l'humanité aujourd'hui. C'est super important. Voilà, donc on a plusieurs solutions. On peut avoir... Il faut bâtir un mix énergétique en France. Aujourd'hui, on a la chance de l'avoir, d'en avoir une partie. On pourrait pousser ça beaucoup plus loin. On pourrait avoir des énergies renouvelables, type éolien et photovoltaïque, pardon. On peut avoir du biogaz. On peut avoir de l'hydrogène vert. Mais on a aussi des énergies... Alors ça, ce sont des énergies intermittentes, c'est-à-dire que ce sont des énergies qui répondent au climat, à l'ensoleillement, voilà. Et après, on a des énergies pilotables, le nucléaire. On a aussi l'hydroélectricité, c'est-à-dire les barrages hydrauliques qui permettent de compenser les pointes de consommation. Le thermique à flamme avec captation, donc comme on a sur Bouchain, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on produit à partir du gaz de l'électricité et on recapte les rejets pour les retraités, en fait. Donc, c'est... à bas rejet de CO2. Et puis, on a le stockage, voire la transformation du CO2. Donc, ça permet de répondre un peu à tous les enjeux climatiques. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la France, grâce à ce mix énergétique, fait partie des pays avec le plus bas taux de rejet de CO2 par habitant.
Alors j'imagine que certaines franges des écologistes sont quand même pas tout à fait d'accord. Il y a évidemment la question du nucléaire et enjeu majeur, dont, notamment avec le projet CIGEO à Bure, où on se rend compte du problème que c'est que la gestion des déchets nucléaires. Il y a également en amont un enjeu qui est peut-être moins écolo, mais quand même, c'est l'approvisionnement en uranium, ce que fait la France au Sahel, mais bon, on ne va peut-être pas rentrer là-dedans, mais au moins sur la question, sur la question du nucléaire, vous, c'est un point que vous soutenez.
Tout
à fait. Il n'y a pas d'alternative à ça.
Alors, première chose, il n'y a pas d'alternative parce que le nucléaire aujourd'hui nous permet de produire pour répondre à la demande des usagers français. Si on n'avait pas le nucléaire, on ne pourrait pas répondre à cette demande et on serait obligé d'aller acheter notre électricité à l'étranger, notamment en Allemagne, qui aujourd'hui a arrêté ses centrales nucléaires, mais qui produit en charbon et rejette énormément de CO2. On ne répond plus du tout à l'enjeu climatique. Mais c'est un double jeu que joue l'État encore depuis de nombreuses années avec le nucléaire. Pendant des années, on entend dire le nucléaire, faut l'arrêter, on arrête Fessenheim, on arrête ci, on arrête là. Mais d'un autre côté, ils ont aussi bloqué le développement des nouvelles centrales nucléaires. La question des déchets, elle est simple. Si l'État avait mis les moyens et laissé EDF aller au bout du projet Astrid, c'est-à-dire la quatrième génération des centrales nucléaires, on n'aurait plus de problème de déchets en France. Je m'explique. Ces centrales-là permettent de réutiliser les déchets en uranium appauvri qu'on a stockés en France dans ces centrales. Ce qui voudrait dire qu'on réutiliserait tous les déchets qu'on a aujourd'hui pour produire de l'électricité. Et cela nous permettrait de tenir 5000 ans. Donc, la solution là, c'est juste une question de coût, c'est juste une question de volonté gouvernementale, mais elle est là. Donc, on répondrait à ce problème de déchets, on répondrait aux besoins des Français, on répondrait à l'enjeu climatique puisque les centrales nucléaires sont celles qui rejettent le moins de CO2. Donc, voilà, la solution, elle est là, elle est sur la table, mais on ne nous laisse pas faire.
Donc la CGT a un projet qui permettrait de fabriquer de l'électricité avec de l'uranium sans aucun déchet, sans aucune pollution a posteriori.
Alors, ce n'est pas la CGT, c'est EDF qui, dans son projet de recherche et développement, avait imaginé cette centrale. Aujourd'hui, elle est produite en Russie, elle est produite en Chine, elle est produite au Japon, elle fonctionne très bien. Sauf qu'en France, on ne nous a pas laissé produire. Ça répondrait réellement au problème des déchets, effectivement. On réutiliserait presque, alors je dis bien presque, à l'infini, à ce recyclage des déchets, en fait.
Un des autres aspects, on a parlé, et actuellement ça se développe beaucoup, de biogaz, de fabriquer du gaz, du méthane à partir de déchets verts. On sait aussi que ça peut énormément peser sur les surfaces agricoles, c'est-à-dire ça prendrait des surfaces agricoles destinées à l'alimentation pour produire en fait des déchets qui ne seraient d'ailleurs plus des déchets vu qu'on les produirait. Il peut y avoir aussi des problèmes d'alimentation, ça pèserait beaucoup sur le foncier agricole aussi. Actuellement, il y a un emballement, hein. On voit ces méthaniseurs un peu poussés comme des champignons un peu partout. Il y a quand même aussi là quelque chose qui est très ambigu, en fait. On propose une électricité, pas une électricité d'ailleurs, mais une source d'énergie verte, du biogaz, mais avec tout un tas d'inconvénients à côté.
Alors, les inconvénients, effectivement, mais on ne nous laisse pas faire comme on veut, en fait. On a beaucoup de projets sur le biogaz aujourd'hui qui ont été annulés, ou alors carrément des centrales, enfin des points de production biogaz qui sont fermés. Donc l'énergie verte, oui, c'est le credo actuel, il faut produire du vert, mais on ne nous laisse pas faire exactement ce qu'on veut. C'est sûr que ça crée quelques difficultés, mais dans ce mix énergétique, je pense qu'il faut trouver un certain équilibre avec avec le nucléaire, le biogaz, l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire, parce qu'on parle du biogaz, mais les grands champs de panneaux photovoltaïques dans le sud, ça prend autant de place, si ce n'est plus, pour produire beaucoup moins, quoi. Donc, chaque énergie renouvelable ouverte a ses inconvénients. Il faut juste qu'on trouve le bon équilibre pour pas que ça pèse d'un côté plus que d'un autre, quoi.
Oui, donc il y a en fait une espèce de mix à trouver, mais qui d'abord dépendrait d'un grand débat démocratique, plus démocratique sur l'énergie pour...
C'est ça. Et puis aussi, ce fameux service public de l'énergie aurait aussi toute son importance dans le développement de telle ou telle énergie, de telle ou telle production. Et comme il y aurait un mix au sein de ce service public de l'énergie entre des citoyens, l'État et les entreprises fondatrices de ce service public, ça permettrait de trouver un accord sur quelle énergie développer et comment la développer. Et voilà, qu'en fait, les grandes lignes directrices seraient débattues et ne seraient plus à la main d'un PDG ou de l'État, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Romain Fronec. Donc, je rappelle que tu es délégué syndical à la Fédération nationale des mines et énergies CGT. Je te laisse conclure en nous disant où est-ce qu'on peut aller se renseigner sur ces choses-là. Ou alors, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être ?
Non, je vous remercie pour ce moment d'échange. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la FNME CGT ou sinon sur le site... service public de l'énergie. Vous retrouverez tout le PPE dedans, vraiment un peu plus développé que ce que je viens de faire, puisque c'est plus compliqué de le faire à l'oral que de l'écrire.
Oui, puis on a essayé aussi de comprendre les enjeux, hein, qu'il y a derrière.
Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas, et puis en tout cas, je vous remercie encore pour cet échange.
Merci.
Merci beaucoup, Romain Fronec, hein, d'avoir répondu aux questions dans le studio de Micro Rebelle, car dans ce contexte de hausse globale des tarifs de l'énergie, il n'est pas toujours évident de savoir comment se renseigner, comprendre les enjeux du marché de l'énergie dans ce cadre de libéralisation. Peut-être faire un écho ou du moins un répondant avec tout cela. Nous recevrons la semaine prochaine, mercredi, Monsieur Gérard Chombard qui, lui, est militant sur la question de la méthanisation. La question d'un méthaniseur, un méga-méthaniseur qui se créerait à Bailleul. Donc vous en saurez très vite plus sur cette question, aussi des enjeux liés à la production du biogaz. Alors désormais, notre émission se tourne vers l'agenda. Il est temps maintenant de prendre votre carnet, votre stylo ou votre appareil électronique sur lequel vous écrivez les dates intéressantes, car samedi 23 octobre, c'est-à-dire demain, a lieu ici même, à la Maison des Jeunes Buissons, la fête de la Trouille. Fête de la Trouille, remplie d'activités terrifiantes, dans une maison des jeunes redécorée pour l'occasion. C'est sur inscription auprès de la Maison des Jeunes, mais vous êtes les bienvenus encore, il y a encore des places. Donc c'est à la Maison des Jeunes Buissons, à Lens. Et une autre date pour demain, le 23 octobre, si vous êtes plutôt intéressé par les questions zapatistes ou bien vous intéressez vous à cela, mais en ne connaissant pas du tout ce qu'est la cause zapatiste, il y a une soirée de projection de courts-métrages et de courtes vidéos pour mieux comprendre l'histoire du zapatisme, l'histoire de leur lutte, de leur victoire, mais aussi les contraintes rencontrées et puis leur méthode d'organisation collective. Ça risque d'être assez passionnant et ça a lieu au local de la CNT de Lille, 32 rue d'Arras, samedi 23 octobre à partir de 19h. Et à ce propos, je vous propose d'écouter un entretien avec Réro, qui nous en parlera un petit peu plus. Réro est un membre de la zone d'accueil des luttes intergalactiques, organisme collectif plutôt, par lequel nous invitons les apatistes à nous rencontrer. L'entretien que vous allez entendre est l'entretien d'un des membres de la zone d'accueil des luttes intergalactiques, Rero. Il va nous expliquer à nouveau un petit peu la venue de la délégation zapatiste et ses enjeux. Avec une précision du programme, maintenant nous pouvons vous inviter à la manifestation du mercredi 27 octobre, manifestation qui se passera à Lille, derrière le comité sans-papiers 59, avec la fanfare de lutte qui sera présente, un beau moment à 18h30, rendez-vous place de la République à Lille, et une date qui va arriver tout bientôt, car c'est demain soir, à la CNT. Pour se renseigner mieux sur le mouvement, il y aura des projections de petites vidéos et courts-métrages sur l'histoire, le mouvement, les combats, également les contraintes que rencontrent les zapatistes au Chiapas. Alors rendez-vous 32 rue d'Arras, samedi soir à partir de 19h, soirée à prix libre. Bonsoir Rejo.
Bonsoir Roxane.
Nous sommes ici ce soir à la CNT pour organiser la venue d'une délégation zapatiste.
Une des plusieurs réunions qu'on a eues dans presque une année depuis qu'on a pris cette initiative des communautés zapatistes. Et oui, à Lille, il y a un grand intérêt et certaine effervescence voilà, qui s'est déroulée surtout dans le locaux de la CNT qui, gracieusement, ils ont prêté les lieux pour tenir les réunions. Ouais.
Et alors, autour de cette organisation qui s'appelle Tsalig, la zone d'accueil des luttes intergalactiques, il y a de nombreux collectifs engagés, associations et puis deux syndicats aussi. Tu veux nous en parler un petit peu plus?
Ouais, la Tsalig, c'est un homme qui répond justement au code zapatiste, qui sont faits des réunions internationales, mais qui sont tellement insistés sur un appel large que les premières rencontres internationales chez eux, au Chiapas, c'était les rencontres intergalactiques. Donc nous, pour jouer un petit peu avec une brande d'humour, mais aussi répondre au code zapatiste, on a nommé ça la zone d'accueil intergalactique de Lille, parce que plus qu'un collectif, on se sent représentant d'un territoire. Et là, une diversité énorme des collectifs, et on a décidé ça, de créer ça en forme de zone, aussi pour faire un clin d'œil à des lieux de résistance comme la ZAD. D'où les noms de Tsalig. Effectivement, nous sommes plusieurs collectifs, associations, organisations syndicales, mais aussi, il faut les souligner, des volontés individuelles qui sont un intérêt énorme pour participer à ces rencontres.
Alors, ça va leur permettre de découvrir les luttes locales, les luttes présentes ici, avec différentes thématiques.
Je pense qu'on connaît mal les zapatismes. Et eux, ils nous connaissent mieux parce qu'ils sont vraiment un radar énorme dans lequel ils sont familiarisés avec les luttes en Europe. Il y a une grande tradition de lutte sociale en Europe et eux, ils ne sont pas étrangers à ça. Je pense que le déplacement se fait aussi pour nous connaître mieux. Et évidemment, il y aura de nouveaux rencontres avec de nouvelles initiatives. Et eux, ils viennent pour prendre la température de la lutte sociale, mais surtout aussi à connaître les méthodes de lutte, les fronts les plus sensibles, et avoir des communs dénominateurs de la lutte menée chez eux et les luttes ici, parce que bon, on ne va pas se cacher, hein, c'est en bas à gauche, c'est anticapitaliste, antipatriarcal, antimachisme, antiracisme, anticolonial. C'est un peu les communs dénominateurs de tous les collectifs qui sont répandus, pas qu'à Lille, mais dans l'ensemble de l'Europe.
Et puis
et bientôt en Afrique.
Et tout ça se rejoint bien dans le nom de leur voyage, qui est le voyage pour la vie. Toutes ces luttes, elles permettent finalement de lutter pour la vie, parce que le capitalisme et les oppressions nous détruisent.
Je saurais pas quoi ajouter, tu l'as exprimé. Chez soi, il a une conception de la vie en opposition au capitalisme. La lecture zapatiste, c'est très intéressant parce que chez nous, maintenant je me compte comme un citoyen européen, parce que c'est ici que se déroule ma vie. Et donc chez nous, il a un rapport d'abord idéologique, dans lequel on oppose au capitalisme des ismes idéologiques de toutes couleurs, de tout tons de rouge, etc. Mais chez eux, la lecture, c'est plus simple. Le capitalisme s'oppose à la vie, donc c'est la vie qui lutte. Et puis, voilà. Ça nous épargne beaucoup des divisions de l'ordre idéologique. Et aussi, il a un degré poétique dans sa proposition. Un voyage pour la vie, c'est pour la vie avec des grosses majuscules. C'est vraiment la vie humaine sur Terre que c'est l'enjeu. Et ce voyage, c'est de les donner un sens collectif à échelle planétaire.
Il y a une construction, une co-construction de solidarité internationale là, qui se construit avec cet élan qui crée. Il nous oblige, nous, à nous organiser, à créer de la solidarité entre collectifs ici, au niveau local. Et puis, je pense que ça fait un grand mouvement comme ça. Ça fait des ponts, des liens entre des organisations qui luttent, elles, depuis longtemps, sur chacune des thématiques, parfois différentes. Là, ça permet de mettre en commun, en fait, hein, toutes ces luttes, finalement. On a le comité Sans Papiers 59, le Front Uni de l'immigration des quartiers populaires, des personnes
qui sont les derniers arrivants. Oui. Sont les derniers arrivants dans la Saligue. Il y a des autres collectifs qui sont depuis le départ, notamment la CNT qui s'est impliquée dès le départ avec son comité international. Il a syndicat solidaire. Bon, on va commencer à faire la liste. On risque de laisser dehors beaucoup. Je ne vais pas m'égourer. Mais il a des luttes qui représentent la défense des territoires urbains. Par exemple, les groupes qui sont contestés les projets à la friche en Sauveur. Il a des collectifs qui soutiennent les gens de voyage. Waouh, il a une belle brochette, on dit en français. Il a une belle brochette. Bon, je n'ai pas trop ça parce que ça figure d'être traversé par un estique. Mais oui, la diversité, c'est ce qui nous rend communes, qu'on est différents. C'est paradoxal. Mais finalement, les propositions zapatistes, ils sont toujours cette approche innovante. Et c'est surprenant qu'une lutte venue de loin, ils puissent nous rapprocher, nous rassembler. Certains collectifs, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ici, dans les fronts, par exemple, à la loi travail, tout ce qui est articulé autour des Gilets jaunes l'année dernière, les 12 années précédentes, mais aussi là, beaucoup de gens et des groupes qui se sont rapprochés, qui se découvrent et qu'on apprend à se connaître. Et j'y reviens à insister aussi sur le fait qu'il y a des individus impliqués et qu'ici, à la Saligue, les voix d'une collective, il n'a pas plus de poids que la voix d'un individu qui agisse d'une façon personnelle, mais aussi engagée qu'un collectif de 10 personnes.
Alors on parle de la Saligue, la zone d'accueil des luttes intergalactiques lilloises, mais c'est également des personnes du bassin minier qui sont prises dans le mouvement avec nous, qui organisent aussi, et on les en remercie aussi. On crée un truc aussi entre les deux départements, la Nord et Pas-de-Calais.
Ça nous a donné une force énorme. Parce qu'au départ, bon, si j'ai pu révéler certains détails de l'organisation à échelle de la France, cette Voyage pour la vie, il a une dimension d'abord européenne dans laquelle c'est une pataquée, c'est pas possible à organiser. Vous imaginez visiter 17 pays, ce qui concernait la France, ils avaient décidé de diviser ça en 8 régions. Et nous, ici à Lille, on était un peu orphelins. On ne savait pas si on devait s'attacher à une région nord-ouest qui tirait de Bretagne jusqu'à Caen, ou si on devait se rapprocher de Île-de-France-Paris pour tenter de faire un axe avec les Bruxellois et les Liégeois, nos chers voisins ici en Belgique. On s'est retrouvés là et c'est grâce à la proposition venue de tous les noyaux des Liévins, dans le micro-rebelle et les parts, toutes les organisations qui gravitent autour de Lyon autogérées. Et ça nous a permis de nous positionner comme une région en soi. En fait, ouais, c'est les Hauts-de-France, mais c'est de la région nord. Et dans les communications, je me suis permis toujours de faire des références avec la Révolution mexicaine. Il avait Zapata, qui était le caudillo del sur, qui avait l'armée côté sud. Et il avait Pancho Villa, le nord du pays, il avait la division del norte. Donc, quand le groupe de 62 s'est rejoindre à nous, moi je voyais attentivement la Saligue, voilà, la division del Norte, pour faire référence au mouvement de Pancho Villa lors de la révolution de 1910. Et merci à ces camarades qu'on n'a pas encore rencontrés, sauf par ton intermédiation. Ils ont proposé un programme assez bien calé, impressionnant, divers et riche. On aimerait bien de pouvoir y aller, mais comme ça arrive au milieu des semaines, ça va être un petit peu compliqué. Mais le plus important, est-ce qu'on est capable de répondre à un appel ensemble, de quelque sorte, oui.
Ben merci beaucoup. Tout ça, ce sera du 25 au 31 octobre.
Du 25 au 31, les caractères des échanges, ils demandent, et c'est une demande de la commandante zapatiste, c'est que ça se célèbre dans des rencontres fermées, plus ou moins. C'est vraiment l'histoire de rencontrer un collectif avec la délégation. Ils ne sont pas limités à des programmes plus ouverts, voire festifs, etc. Donc ici, la SALIG a décidé de marcher derrière la banderole des sans-papiers les mercredis 27. Et on a invité les zapatistes, et surtout les CSP 59. Et là, la gentillesse de poser cette geste, de nous inviter à marcher derrière la banderole avec eux. Donc ça sera la seule apparition dans la voie publique, dans le milieu public. Et on invite tous et toutes à marcher chaque mercredi avec les CSP, bien entendu. Mais cette mercredi, ça sera spécial parce qu'on aura la participation des représentants des communautés zapatistes, qui seront 5 plus 1 accompagnateur, aussi membre de zapatisme, mais qui aura une autre fonction. Donc il a 6. Et puis il a Sali et la fanfare en lutte. Et tous les amis, franchement, venez, ça va être une bonne journée pour le mouvement social ici à Lille. Et c'est bien, ça sera bien de se rapprocher. L'occasion s'est donnée par ces rencontres, mais on souhaite de multiplier ces rencontres dans une dynamique plus large, en vue des calendriers politiques qui nous occupent et qui nous inquiètent ici en France, surtout en vue des élections, que vous connaissez bien la musique. Hein.
Rendez-vous mercredi 27, 18h30, place de la République, alors.
Parvis des droits de l'homme, comme on veut l'appeler, mais oui, c'est là-bas, vous connaissez, en face des beaux-arts, quoi. Wesh.
Merci beaucoup. Et une date qui va arriver tout bientôt, car c'est demain soir, à la CNT. Pour se renseigner mieux sur le mouvement, il y aura des projections de petites vidéos et courts-métrages sur l'histoire, le mouvement, les combats, également les contraintes que rencontrent les zapatistes au Chiapas. Alors rendez-vous 32 rue d'Arras, samedi soir à partir de 19h. Soirée à prix libre.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
J'espère que cette émission Micro-Rebelle Hebdo vous aura plu. Trois dates avant de se quitter. Mercredi 27 octobre, donc à 18h30, vous l'avez entendu, toute la division del Norte, derrière les sans-papiers 59 qui demandent la régularisation des sans-papiers, une manifestation qui aura lieu en musique avec la fanfare de lutte. Et peut-être un grand chant d'une hymne zapatiste à la fin, si vous aimez pousser la chansonnette en chœur. Ensuite, vendredi 29 octobre, une chose intéressante se produit au lieu autogéré de Liévin, la commune au présent, avec Ludivine Bantini, qui a écrit un livre sur la commune. Cette historienne a écrit un livre sous une forme épistolaire, c'est-à-dire sous la forme de lettres. Nous la recevrons aussi ici, à Micro-Rebelle. Pour cette rencontre qui a lieu au lieu autogéré de Liévin, la jauge est limitée à 25. Les inscriptions sont donc conseillées à l'adresse contact@lelag.fr. Dernière date, atelier rap à Micro-Rebelle les 2, 3 et 5 novembre de 10h à midi et de 14h à 16h. Ce sont des ateliers d'écriture avec la Générale d'Imaginaire qui sont proposés. Puis, plus tard, dans le même cadre, le 17 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h, préparation et enregistrement d'une émission de radio. Tout ceci sera gratuit et ouvert à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. À une prochaine pour un Micro-Rebelle Hebdo. Au revoir.